La tête au carré, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 14h. La tête. Il y a quelques mois, en France, éclatait la polémique autour des violences obstétricales et dans ce contexte et dans le cadre de la médicalisation intensive de la grossesse, la simple question de la pratique de l'accouchement mérite d'être posée. Comment naît-on en France aujourd'hui? Comment a évolué l'acte médical? Ce sera le dossier de l'émission dans un instant avec mes invités, le gynécologue obstétricien Paul Cesbron et France Hartzner du CIAN, le collectif interassociatif autour de la naissance. Axel Villard, bonjour.
Bonjour Mathieu.
À la une de la science, aujourd'hui le sommeil des lézards.
Oui Mathieu, une équipe française confirme que les lézards, comme les mammifères et les oiseaux, possèdent deux phases de sommeil et peut-être même qu'ils rêvent. On en discute dans un instant avec celui qui les a regardés dormir.
Et c'est Fanny Boyon qui réalise aujourd'hui cette tête au carré avec Stéphanie Texier et l'aide de Lucie Sarfati.
La tête au carré, le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Villard.
La médicalisation de la naissance, ce sera donc le dossier dans un instant avec mes invités que je salue, France Hartzner du CIAN et le gynécologue obstétricien Paul Cesbron. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bienvenue. France Hartzner, cette question de la surmédicalisation, elle est centrale aujourd'hui autour de l'accouchement.
Oui, pour nous, c'est ce qui compte, de parler surmédicalisation versus médicalisation de la naissance et du vécu des femmes vis-à-vis de ça.
Paul Cesbron, est-ce que vous êtes surpris, vous, par ces paroles justement de femmes qui dénoncent les pratiques des maternités en ce moment ?
Non, pas surpris, dans la mesure où notre culture médicale est celle du paternalisme, du surplomb, et qu'à ce titre, nous sommes face à une population de femmes aujourd'hui qui sont cultivées, qui connaissent beaucoup de choses et qui sont en droit, bien sûr, de demander des explications qui doivent leur être données. Donc, c'est la fin du surplomb, c'est la fin de cette période où les médecins, bien sûr, ont des connaissances que n'ont pas la plupart des femmes, mais qui doivent être données, expliquées et comprises dans le cadre d'un échange d'égal à égal.
Ben c'est exactement ce qu'on va faire ensemble tout
Merci.
À l'heure avec les auditeurs et les auditrices qui nous rejoignent sur le site de l'émission avec les messages et les témoignages. Et à quoi rêvent les dragons barbus? Question essentielle posée aujourd'hui à la vue de la science.
Oui Mathieu, essentielle car le sommeil et son évolution dans le règne animal sont des sujets très mal connus. L'équipe Sommeil du Centre de Recherche en Neurosciences de Lyon s'est donc intéressée à deux espèces de lézards. Il montre que comme les mammifères et les oiseaux, les reptiles possèdent deux états de sommeil qui auraient pu apparaître chez nos ancêtres il y a 350 millions d'années. On en discute avec vous, Paul-Antoine Libourel, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes ingénieur de recherche pour le CNRS au sein de cette équipe Sommeil à Lyon et c'est vous qui avez mené ces expériences. Alors pour commencer, je voulais vous demander comment est-ce qu'on étudie le sommeil des lézards? Est-ce que vous leur mettez des petits casques sur la tête comme on le fait avec les hommes?
Eh ben, en fait, curieusement, c'est exactement ce qu'on fait. Mmh. Alors, on regarde un peu plus de paramètres que ce qu'on peut regarder classiquement chez l'homme, notamment toute la recherche comportementale qui pourrait y avoir dans le sommeil. Le sommeil comportemental, on peut l'identifier par une position, par un seuil de réveil plus élevé, une réponse à une privation. Donc, c'est tous des critères qui nous permettent d'identifier le sommeil. Mmh. Et en plus, effectivement, on enregistre l'activité cérébrale, la fréquence cardiaque, le tonus musculaire, le mouvement des yeux, tout comme on pourrait le faire en médical.
Oui, c'est très complet. Alors, est-ce que vous vous attendiez à trouver deux phases de sommeil comme pour l'homme ou pour les mammifères?
Alors, en fait, on a commencé les études là-dessus sans trop d'a priori. Quand on regarde la littérature qui a commencé essentiellement dans les années 70, au moment un peu après qu'on ait découvert le sommeil paradoxal et le sommeil, les deux types de sommeil, quand on regarde ce qui a été fait chez les reptiles, lézards, crocodiles et tortues, c'est pas très très clair. Du coup, en fait, on est parti sans a priori et on a essayé de regarder naïvement tout ce qu'on pouvait enregistrer pour essayer de voir si effectivement il y avait un ou deux états, s'ils étaient pareils, différents de ce qu'on pouvait trouver chez les mammifères.
Mais pourquoi est-ce que c'est crucial l'histoire de un ou deux états alors ?
Classiquement, dans les années 50-60, il y a eu des recherches chez l'homme puis chez le chat qui ont démontré qu'il y avait deux états de sommeil chez les mammifères, du coup, avec un état qu'on appelle plutôt sommeil lent, parce que l'activité cérébrale se ralentit et amplifie, et un état de sommeil paradoxal qui s'appelle paradoxal, qui a été nommé sommeil paradoxal par Michel Jouvet, sur Lyon d'ailleurs, parce que paradoxalement, l'animal est endormi, mais il a une activité cérébrale qui ressemble à l'éveil. Et cet état est plutôt un état de sommeil actif. Quand on voit un chien en sommeil paradoxal, on a tout de suite l'image des mouvements des yeux, des mouvements des moustaches, des pattes qui bougent. Et en étudiant cet état, on l'a retrouvé aussi chez les mammifères. Et les mammifères et les oiseaux partageant un ancêtre commun avec les reptiles, on s'est posé la question de voilà, si ça existait chez ces animaux.
Alors pour le lézard, on parle de sommeil lent et paradoxal aussi ?
C'est pas aussi clair. En fait, on a utilisé cette définition chez les mammifères. Du coup, en la cherchant chez les oiseaux, on a retrouvé quelque chose qui ressemblait, avec des ondes lentes et un sommeil paradoxal avec des mouvements oculaires. Chez les reptiles, on n'a pas trouvé ça. Et la question, c'est est-ce qu'on peut le nommer de la même façon alors qu'on n'a pas forcément quelque chose qui ressemble. C'est toute la difficulté de travailler sur des animaux qui ont un mode de vie, une organisation cérébrale qui peut être différente et du coup qui peut peut-être avoir des signatures de ces états qui ne ressemblent pas forcément à celles des mammifères.
Alors, le fait que les oiseaux, les mammifères et donc là, les reptiles partagent ces deux phases de sommeil, qu'est-ce que ça veut dire en termes d'évolution dans le vivant ?
Alors, globalement, il y a deux hypothèses. Si on a trouvé du sommeil lent et du sommeil paradoxal, si on continue à les appeler comme ça, chez les mammifères et chez les oiseaux, on va se poser la question de ce qui est arrivé à leurs cousins, les reptiles, qui ont, je le répète juste, un ancêtre commun, donc ça veut dire qu'ils descendent tous de la même, du même animal.
Ouais.
On peut se poser la question, s'il n'y en a pas chez les reptiles, ça voudrait dire que ces deux états sont apparus avec le mode de vie actif, avec l'apparition du sang chaud ou de l'homéothermie, de la régulation de température. Et du coup, peut-être que le lien, qu'il y existe un lien direct entre ce mode de vie et l'existence de ces deux états. Alors que si ça existe chez des animaux à sang froid, donc les reptiles qui ont un ancêtre commun, ça va changer notre façon de voir ou nous permettre de voir ce sommeil d'une façon différente. Et globalement, si on identifie deux états chez les reptiles, les mammifères et les oiseaux, ça voudrait dire que l'ancêtre commun, lui aussi, avait ces deux états de sommeil.
Donc, ça veut dire qu'on remonte beaucoup plus loin dans l'arbre du vivant. Est-ce qu'il y a des animaux qui ne dorment pas du tout ou très très peu ?
Alors, globalement, on pense que tous les animaux dorment. Après, il a été rapporté des animaux, comme des poissons cavernicoles, qui rapportaient des phases d'activité constantes. Après, est-ce que ça veut dire qu'ils ne dorment pas ? Ça devient un petit peu compliqué. Est-ce que, par exemple, les mammifères marins font du sommeil unilatéral ? Donc, c'est une adaptation qui leur permet de dormir et d'être quand même éveillé en même temps. En fait, la question est assez compliquée.
Et d'ailleurs, on le voit aussi dans votre étude, parce que vous avez étudié deux espèces de lézards et le sommeil est très différent déjà chez ces deux espèces.
C'est exactement ça. On a répliqué une étude qui avait été faite en 2016, qui avait montré que chez le dragon barbu, donc un lézard australien, on avait une alternance entre deux états cérébraux. Un état où il y avait des ondes cérébrales lentes et de basse fréquence, qui faisait penser au sommeil lent, qui alternait avec une phase d'activité cérébrale qui ressemblait à l'éveil. Et pendant cette période, il y avait quelques mouvements oculaires faisant penser au sommeil paradoxal. Donc nous, dans notre étude, on a répliqué ces données-là qui confirment bien cette façon de dormir de ce dragon barbu. Et on a enregistré un autre lézard d'une autre famille. Et en fait, de façon assez curieuse, on n'a pas du tout retrouvé la même chose. On n'a pas ces ondes lentes, on n'a pas cette alternance extrêmement régulière. Du coup, on a identifié des différences entre les deux lézards assez importantes.
Alors Paul-Antoine Libourel, pour terminer, il faut qu'on vous pose cette question. Est-ce que vos résultats permettent de penser que les lézards rêvent alors ?
Ah oui, ça, on veut savoir absolument.
Moi, j'aimerais encore bien savoir, je vais peut-être vous décevoir. Ce qui se passe, c'est qu'on a identifié deux états, dont un partage des caractéristiques avec le sommeil paradoxal des mammifères. Et c'est pendant ce sommeil paradoxal qu'il y a la majorité des rapports de rêve chez l'humain. Le problème, c'est que les lézards, ils ne se sont jamais réveillés en me racontant à quoi ils avaient pensé. Ah. Du coup, on n'est pas arrivé à savoir.
C'est une réponse de scientifique normand.
Ils ne coopèrent pas bien, les lézards. Paul-Antoine Libourel, merci beaucoup.
Oui.
Merci en tout cas.
Merci à vous.
Et bravo pour vos recherches. Merci à vous et Axel, on se retrouve demain.
À demain, Mathieu.
Allez, dans le reste de l'actualité scientifique, un tiers des substances chimiques utilisées en Europe ne sont pas conformes à la réglementation. L'Institut fédéral allemand d'évaluation des risques, l'équivalent de l'ANSES en France, épingle les industriels de la chimie. Après 3 années d'enquête, leur rapport est accablant. Pour les experts, les fiches d'évaluation fournies par les industriels sont insuffisantes, voire trompeuses pour 32% des substances. Pour le Bureau européen de l'environnement, ce sont des résultats effrayants qui montrent que les industriels violent les lois européennes pour des centaines de substances. 4 planètes géantes de la taille de Jupiter autour d'une jeune étoile, il n'en fallait pas plus pour poser des problèmes aux planétologues. Ce système planétaire nommé CITO, identifié par le télescope ALMA, est unique en son genre. Selon les modèles actuels, il est normalement très rare, voire impossible, de former de si grosses planètes longues justement à se former autour d'une étoile si jeune. Une nouvelle découverte qui va donc permettre de revoir certaines théories. Et puis pour terminer, un chewing-gum électrique qui titille votre langue pour maintenir son goût. Ce nouveau bonbon, prototype et sans douleur, précise les inventeurs, a été mis au point par des Japonais. Il utilise l'effet piézoélectrique, une capacité qu'ont certains matériaux de générer de l'électricité lorsqu'ils sont comprimés ou déformés. Lorsque vous le malaxez, il lâche de toutes petites décharges électriques qui excitent vos récepteurs sensoriels. Pour le moment, le goût de ce chewing-gum est soit salé, soit amer. Mais les chercheurs essayent de faire varier l'intensité électrique pour trouver d'autres goûts. I've been feeling kind of cooped up, I'm trying to get some fresh air. Hey, well, you got the roof out, you know it never rains here. Hey, you ain't got a flash when you're taking your picture. You ain't got to draw no extra attention. Paparazzi wanna shoot ya, shoot ya. Niggas dying for less out here. I've been in my bag anyway, trying to throw a bag in the safe. Yeah, guitar, chair, and bass. Baby, Milo wants some baby names. Niggas crying for less out here. Do what I gotta do, bruh, do, bruh. Get up in my rearview mirror. I can't be running round that open street. Windows and windows windows tint. I can't be flying down that one tint. Bad bitch in my whip. I need tints. Windows tint. I need tints. I need a windows tint. And it's no good for me. It's so good for them. I need tints. Windows tint. I need tints. I need a windows tint. I've got way too much to lose. So roll your window up real quick. I need tints. Windows tint. I need tints. Windows tint. You probably think a nigga trolling, like, but showing out for the cameras. Right. Fuck, I'm doing fish bowling. Side. 100,000 on the passenger. Bitch, I'm Kendrick Lamar. Respect me from afar. I was made in this image. You call me a god. Everybody in attendance. I'm about to perform. Everybody get offended by the shit I got on. Like, can you buy that nigga 900 horse? Can you drive that nigga a G5? Can you fly that nigga? I need 10 so I can look at the snakes and poses. I need 10. Cause bomb head is non-disclosure. I need 10. So I can live with a peace of mind without niggas taking a piece of mind. And peace be still and not do fine. So fuck a fix-it ticket. You pull me over and might see one of your bitches. Running round that open street. I need tents. Windows tents. I need tents. A windows tent. I can't be flying down that one tent. Put the baggage in my whip. I need tents. Windows tent. I need tents. A windows tent. And it's no good for me. It's so good for them. I need tents. Windows tent. I need tents. A windows tent. I've got way too much to lose. So roll your window up real quick. I think I'm about to black out. Can't see me when I act out tonight. I got some moves I gotta make though. I got the goons up on the payroll. They wasn't me coming, they wasn't me coming, no. Tins, c'était Anderson .Paak.
La tête au carré, les mercredis psy et philo, avec Mathieu Vidard sur France Inter.
La radiodiffusion télévision française présente Tu enfanteras sans douleur.
Je suis dans une petite pièce claire de la maternité. Devant moi, Une jeune femme au visage souriant, aux cheveux châtains, est tranquillement étendue. Un drap blanc recouvre son ventre bombé. La sage-femme, qui l'assistera pendant tout l'accouchement, est à côté du lit. Elle veille à ce que la jeune femme réussisse bien la respiration haletante dès les premières contractions.
Inspirez. C'est la première contraction?
La première ressentie.
Et vous avez fait là une respiration haletante pour la surmonter.
Encore une contraction. Toujours surmontée avec la même aisance.
Les contractions ne sont plus les mêmes.
La jeune maman sent elle-même qu'elle a envie de pousser, mais même maintenant que le travail s'accélère, elle ne perd pas son sourire.
Allez-y encore.
11h20. C'est le moment même de la venue au monde. L'enfant est complètement descendu. La jeune maman en est à sa 13e poussée. Elle est parfaitement consciente et applique à la lettre les ordres du médecin.
Inspirez d'abord à fond avant de pousser. Allez-y, bloquez et poussez. Les coudes écartés. Voilà votre enfant, c'est un garçon et il crie immédiatement. Je vais vous demander vos impressions maintenant de cet accouchement, madame.
Allongez-vous bien.
En particulier au point de vue d'expulsion, qu'est-ce que vous pensez? Avez-vous l'impression que vraiment cette méthode vous a aidé beaucoup à pousser?
Beaucoup, parce que au lieu de subir passivement l'expulsion, on la dirige, on la...
Vous n'avez absolument rien senti?
Oh non,
sauf les contractions, l'effort musculaire, mais aucune douleur.
Ah non, absolument pas.
Voilà, ça c'est un drôle de document. 1954, un accouchement sans douleur, issu des archives de l'INA, avec un reportage à l'époque de Louis Dalmas, pour parler aujourd'hui de la naissance, la question de la médicalisation justement de la naissance au cœur de notre émission. Avec France Hatzner, vous êtes membre du conseil d'administration du CIAN, alors c'est le collectif interassociatif autour de la naissance. Et puis Paul Cesbon, vous êtes gynécologue obstétricien, ancien chef de service de la maternité de Creil dans l'Oise. Et puis en 2004, vous aviez publié La naissance en Occident chez Albin Michel. Je vous entendais, enfin je vous voyais écouter attentivement Paul Cesbon ce document. 54, c'est une période très particulière justement hein, autour de l'accouchement sans douleur.
Bien sûr, oui. Fernand Lamaze va donc en Union soviétique pour ayant entendu parler d'une méthode qui permettait aux femmes de contrôler leurs contractions et de ne pas souffrir. Fernand Lamaze est un amoureux des femmes, hein, et donc il est accoucheur, et il ne supporte pas la souffrance des femmes, et donc il pense que c'est l'avenir, s'il existe effectivement une méthode qui permet de faire disparaître la douleur, il y va. Il ramène cette méthode qui va connaître un grand succès, pas seulement en France d'ailleurs, dans le monde entier, en tout cas dans un grand nombre de pays. Voilà, ça va durer quelques années, mais pas très longtemps finalement, puisque...
Qu'est-ce que c'est le principe exact de l'accouchement sans douleur, alors?
Bah, d'une part, c'est quand même une avancée considérable qui consiste à expliquer aux femmes ce qui se passe dans leur ventre, ce qu'est la contraction utérine, le travail du bébé lui-même qui passe à travers le bassin, et cet appui sur ce qu'on appelle le périnée, entraîne la possibilité pour le bébé de sortir par cet orifice qui n'est pas très grand. Voilà, ce qui peut surprendre et qui pourtant peut laisser passer un bébé 3,5 kg. Voilà. Alors effectivement, on a des témoignages, on connaît, et notre premier colloque de la Société d'Histoire de la Naissance a porté sur l'histoire de l'accouchement sans douleur. C'est une très très belle histoire.
France Hatzner, un mot d'abord sur le CIAN, hein, pour faire connaissance un peu mieux avec votre collectif, s'il vous plaît.
Oui, le CIAN est un collectif interassociatif, c'est-à-dire qu'on est composé d'une trentaine d'associations, donc de bénévoles, des associations qui sont sur le domaine de la périnatalité, donc soit sur la grossesse, l'accouchement, et puis les premiers jours de vie du bébé, d'accompagnement à la parentalité, etc.
Ouais. Alors, quand on vous a proposé de venir faire cette émission autour de la médicalisation de la naissance, justement. C'était évidemment un moment tout à fait particulier. On parle beaucoup de ces violences obstétricales. Pourquoi on en est arrivé là, au fond, selon vous? Pourquoi autant de voix qui s'élèvent aujourd'hui?
Alors c'est surtout qu'on les entend plus aujourd'hui parce qu'elles s'élèvent depuis longtemps. Le CIAN existe depuis le début des années 2000 et recueille des témoignages de femmes, accompagne des femmes qui sont en recours justement par rapport à des vécus très traumatisants de leur accouchement ou de leur
depuis
suivi de grossesse.
Depuis quand vous avez vu ces témoignages arriver au CIAN ?
Alors moi, je ne suis pas depuis les débuts du CIAN, mais toutes les personnes qui sont depuis longtemps, depuis le début.
Donc ce n'est pas nouveau du tout, en réalité.
Non, ce n'est pas nouveau. Par contre, la médiatisation de ces témoignages est nouvelle et c'est probablement une bonne chose. Après, il ne faut pas que ça s'arrête à ça. Il y a tout un accompagnement à faire et puis des progrès à faire dans les prises en charge.
Ouais. Paul Cesbron, comment vous réagissez justement par rapport à ces voix qu'on entend beaucoup en ce moment, ces articles nombreux dans la presse, ces débats qui ont lieu ?
Oui, il faut savoir que, y compris Martin Vinclair a écrit un ouvrage redoutable qui se nomme « Les brutes en blanc », donc une désignation très forte de la brutalité possible des médecins. Il est bien évident que il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain et considérer que tous les médecins sont bons à jeter. Mais les médecins doivent se corriger dans leur rapport avec les patientes, en l'occurrence à propos de l'obstétrique, et les patients d'une façon générale dans leur pratique qui est liée à leur histoire, des médecins et celle d'un corps social qui connaît le corps humain, qui va progressivement le mieux connaître, sans avoir d'ailleurs d'excellents résultats thérapeutiques. Nos possibilités thérapeutiques sont extrêmement réduites quand même pendant une très très longue période. Ce qui explique sans doute cette attitude de surplomb, finalement. Nous ne régnons que par cette morgue qui domine et qui prétend guérir alors que elle possède un savoir, c'est certain.
Justement, Franz Hartner, au départ, il y avait cette idée de sécurité de la mère et de l'enfant dans cette volonté de médicaliser beaucoup plus la grossesse. Et aujourd'hui, on en voit un peu les effets pervers.
Ce qu'on se pensait, effectivement, c'est la médicalisation, ce n'est pas forcément le problème, c'est plutôt la surmédicalisation. Ouais. C'est-à-dire penser que la technique est supérieure à tout, qu'elle est l'unique garante de la sécurité des femmes. Or, il y a une sécurité plus globale dont parlent les femmes, qui est la confiance qu'elles peuvent avoir ou pas dans le praticien, le lieu qui l'accueille. Sa reconnaissance. Alors, le dialogue, la reconnaissance de la femme en tant qu'actrice de son accouchement, et le fait qu'elle détienne des informations importantes sur son état de santé, sur ce qu'elle ressent, qui assure aussi sa sécurité quand elle peut dialoguer avec le praticien. Le fait qu'une femme est capable de choix et qu'elle c'est l'actrice.
Tout ça, ce sont les principales revendications qu'on entend beaucoup aujourd'hui autour de ces excès de la médicalisation, précisément.
Oui, il n'y a pas que ça, mais c'est vrai que le fait que cette technique prenne le pas sur tout, elle introduit au final une iatrogénie. On standardise la même chose pour tout le monde. Les femmes sont différentes, elles ont, d'un point de vue médical, des risques différents, et d'un point de vue de leur choix personnel, elles ont des envies différentes. Ce qu'on peut entendre, par exemple, c'est une des premières violences qu'elles peuvent vivre, c'est de se rendre compte qu'elles n'ont pas le choix de leur accompagnant ou de leur du lieu où elles vont mettre naissance. On accouche en maternité, on ne peut pas faire autrement si on le veut.
Ouais. Paul Cesbron, évidemment au départ il y avait cette volonté de faire diminuer la mortalité autour de l'accouchement. C'est pour ça qu'on a beaucoup médicalisé et on a sauvé énormément de vies, évidemment.
Oui, la médicalisation survient quand même à un moment de l'histoire où les nations modernes s'inquiètent de cette mortalité, tant des femmes que des bébés. Alors, on est à des mortalités qui sont à peu près de 1% par grossesse. Ouais. Voilà, ce qui est effectivement énorme, on a divisé par 100 cette mortalité, et même à plus que 100. On arrive maintenant à des mortalités les meilleures dans le monde qui sont situées aux alentours de 3 à 5 pour 100 000 naissances. Voilà. En France, on est un peu au-dessus de ce chiffre. Les progrès médicaux ont participé à cette évolution. Ils ne sont pas les seuls. Il y a les progrès sociaux, les conditions d'hygiène générale dans une population, les conditions de logement, l'alimentation, le suivi médical, bien sûr. Voilà. Donc, les médecins vivent avec le sentiment très fort qu'ils ont participé de façon essentielle, principale, à cette amélioration de la santé obstétricale et néonatale.
Mais vous parliez de paternalisme aussi dans le même temps.
Bien sûr, le paternalisme qui consiste à, mais France vient de s'exprimer très clairement sur le sujet, à considérer qu'en face de nous, nous avons des patientes qui ne peuvent pas en un instant comprendre les mécanismes un peu compliqués de la physiologie obstétricale.
Et le médecin a tendance à l'oublier, ça ?
Bien sûr, parce qu'ils sont pressés, parce que y compris les conditions de naissance se sont bouleversées au cours de ces 20 dernières années par la concentration des lieux de naissance.
Dans ces usines à bébés, certains emploient ce terme terrible,
Mais on ne peut avoir qu'une conception industrielle de l'organisation des soins à partir du moment où on assure 5000 accouchements par an dans un... Voilà. Si on ne veut pas se retrouver avec 100 femmes qui arrivent le même jour, et qui vont se bousculer, risquer d'entraîner, du fait du nombre, des accidents.
Nous étions deux, et j'ai dit oui à son ennui. Si je le pouvais, je le regretterais. Elle était ta meilleure amie. T'aurais pas dû me provoquer avec ce petit garçon de café. Trop de calculs pour ce scandale. C'est pas vraiment ma faute.
Nous étions deux, c'était la femme.
La tête au carré, Mathieu Vidard.
Cette tête au carré consacrée donc à la naissance médicalisée avec mes invités aujourd'hui en studio, Paul Cesbron, gynécologue, obstétricien, et France Hartner pour le collectif Sian, et vos messages qui arrivent sur franceinter.fr et le mot-clé, l'attaque Diane, pardon, sur Twitter, je vais y arriver, nous envoie ce message de Londres où elle nous dit « On peut accoucher chez soi dans un centre de naissance ou dans les hôpitaux et la péridurale est très peu pratiquée ». Une réaction France Hartner sur le choix qui s'offre aux femmes.
Oui, en France, les choses mettent un peu plus de temps à se mettre en place. Effectivement, on a beaucoup moins le choix et les femmes s'en plaignent, enfin en tout cas le disent et le réclament. Il faut qu'elles soient entendues et peut-être que les choses aillent un peu plus vite de ce côté-là. On assiste aussi à des réflexions sur les enjeux de l'information. On parle d'information patiente, de recueil de consentement par exemple. Et on se rend compte qu'informer, c'est pas juste justifier ce que le médecin fait, c'est aussi soutenir la prise de décision de la femme ou du couple. Le consentement, parler de consentement, c'est dire aussi est-ce qu'on peut ne pas consentir. Voilà, il y a tout ça à travailler.
Oudia nous envoie ce message de son côté pour dire que ses enfants sont nés à la maison, devant la cheminée, et que c'est le premier cadeau que nous voulions leur offrir. Est-ce que ce sont des pratiques courantes, ça d'ailleurs, Paul Cesbron, ou est-ce qu'elles restent encore très marginales?
Elles sont très marginales, ce qui ne veut pas dire que la demande n'est pas plus importante. La demande est relativement importante, on va dire, eu égard au nombre réel de cette pratique. Des femmes le souhaitent. J'ai moi-même une fille, d'ailleurs, qui a accouché à la maison. Ça s'imposait pour elle. Voilà.
Est-ce que c'est facile à mettre en place?
Aujourd'hui, non. L'hostilité du corps médical est quasiment absolue. Voilà, les gynéco-obstétriciens français, pour des raisons d'ailleurs, je pense, historiques, qu'on peut expliquer en tout cas, sinon comprendre, s'y opposent et de façon forte, considèrent qu'il s'agit d'un archaïsme, d'une espèce de retour au passé.
Qui peut mettre en danger aussi, j'imagine que c'est
bien
un argument
sûr,
qui revient
bien
beaucoup.
Bien sûr, l'argument étant le danger. Voilà. Nous avons une culture qui est très simple, qui consiste à penser que tout accouchement ne peut être considéré comme normal qu'une fois passé. Voilà, que lorsque la maman sort avec son bébé de la maternité en bonne santé. Voilà, je suis de ceux qui considèrent, et je le dis à mes collègues, que quand même depuis 20 ans on a accompli des progrès en ce qui concerne la connaissance des conditions de naissance. Progrès qui sont considérables et qui permettent à des femmes d'accoucher à domicile. Pas seulement en raison de la proximité des maternités, parce qu'elles sont parfois relativement loin, contrairement à ce qui est dit et à certains engagements, y compris politiques, mais parce que on sait que ce bébé, il est de taille normale, qu'il n'est pas malade, que sa maman n'est pas malade, qu'il se présente bien, que le bassin ne permettra le passage de ce bébé, et que cette femme bien préparée, qui se connaît, qui est bien accompagnée, psychologiquement, ça compte beaucoup. Ça compte beaucoup, l'accompagnement et sa qualité. Ce que l'on n'assure pas toujours dans nos maternités.
Dans un instant, on va parler des sages-femmes, parce qu'il y a beaucoup de messages qui arrivent justement pour qu'on en discute, et c'est tout à fait légitime. Avant ça, juste un reportage qui nous emmène sur l'année 1977, toujours autour de ces propositions alternatives avec la clinique Delila et la naissance sans violence.
Ce qui fait le succès Delila, à première vue, une recette. La naissance sans violence, inspirée de la méthode Le Boyer. Et surtout, un climat de liberté.
C'est de ne pas forcer. On n'attrape pas ces barreaux pour pousser comme une damnée en se disant en une demi-heure il faut que ce soit sorti. Ça sortira petit à petit.
On ne nous met pas dans une position d'assister. On n'est pas des gens à qui on dit il faut faire ça, puis il faut faire ça sans expliquer. C'est-à-dire qu'on nous explique énormément, en particulier tout ce qui peut se passer dans notre corps, ce qui fait qu'on suit très bien et qu'on ne panique pas. Et par rapport à l'accouchement aussi, même chose, on en parle énormément, ce qui fait que il y a vraiment le moins possible de panique et on se sent responsable du truc, quoi.
Il y a des pères qui désirent faire la naissance, d'autres qui ne le désirent pas. Il y a des gens qui veulent accoucher en communauté et ils sont tous en communauté. Il y en a qui veulent être tout seuls, ils sont tout seuls. Il n'y a pas de technique, en fait. On essaie de pas réfléchir à la place des autres.
nez.
Voilà, Paul Cesbron, vous avez un commentaire justement à faire sur cette proposition des lilas. Donc à l'époque, c'était une des toutes premières, mais il y en a eu d'autres. Hein.
Oui, bien sûr. Bah, alors, la naissance sans violence, c'est un apport d'un gynécologue obstétricien français qui s'appelle Le Boyer, Frédéric Le Boyer, et qui va montrer et scandaliser d'ailleurs la population des gynécologues obstétriciens que le mieux est d'accueillir un bébé dans une semi-obscurité, le plonger dans l'eau, le caresser. Voilà, ce que nous apprend Le Boyer, c'est que le bébé est une personne et ce qui commence à se dire et à se proclamer à cette époque. Mais c'est vraiment un bond qualitatif de la pensée humaine, considérer que ce bébé, c'est une personne. Autrement dit, c'est pas seulement nous qui lui apprenons la vie, c'est lui aussi qui nous apprend la vie.
Claire nous envoie ce message. Et les sages-femmes, depuis le début de l'émission, pas un mot sur celles qui militent pour la douceur en salle de naissance et y jouent un rôle fondamental. Je crois que tout le monde est d'accord pour le dire autour de ce micro, France Hartzner.
Oui, bien sûr, que les sages-femmes participent à la naissance. Quand on parle de surmédicalisation, on parle peut-être aussi de ça. Qui doit accompagner les grossesses? Quel type de grossesse? À quel moment? Et de quelle manière? Maintenant, voilà, aussi, on n'est pas là pour défendre une profession par rapport à une autre, mais pour faire entendre le vécu des femmes. Et dans les témoignages que l'on reçoit, dans les recours que l'on accompagne, il se trouve que des femmes peuvent avoir des vécus très traumatiques, que l'accouchement ait été suivi par un médecin ou par une sage-femme. C'est une réalité.
Ouais, Paul Cesbron, la place centrale des sages-femmes, hein, ça c'est quelque chose qui vous tient à cœur, je le sais.
Beaucoup. Ouais. Et donc les sages-femmes sont pour moi les premières professionnelles de la naissance, historiquement. Mais elles restent les premières dans la mesure où elles accompagnent quand même la grande majorité des grossesses et de la mise au monde des bébés. Pour moi, les sages-femmes doivent être restituées dans ce rôle de première professionnelle. Ce qui veut dire que je vais jusqu'au bout et considère que les sages-femmes doivent diriger nos maternités.
Ah oui, vraiment, donc
bien sûr. Je considère que les médecins...
Ah oui, vous n'y allez pas avec le dos de la cuillère.
Oui. Oui, les médecins, et nous le savons tous, sont là, leur profession, et elle est éminente, et de soigner les pathologies. Voilà. Or, au cours de la grossesse et au cours de l'accouchement, surviennent des pathologies. Aujourd'hui, des femmes qui ont des pathologies graves peuvent être enceintes. Tout cela nécessite un accompagnement médical particulier. Mais environ 80 à 85% des femmes ont des grossesses qui sont absolument normales. Elles sont en excellente santé et leur bébé également. C'est aux sages-femmes d'organiser les soins obstétricaux. C'est pour moi très important.
Donc vous dites qu'il faut donner le pouvoir aux sages-femmes.
Hein. On peut le dire comme ça. En tout cas, bien sûr, pour moi, c'est à elles que revient d'organiser les soins obstétricaux. Notre rôle n'est pas du tout secondaire. Il est très important, mais il a une place particulière, singulière.
C'est le gynécologue obstétricien qui vient de s'exprimer, France Hartzner.
Je suis assez d'accord quand même avec ce que dit Paul Cesbron. On voit par exemple avec l'expérimentation des maisons de naissance qui vont permettre à la fois de répondre à une demande des femmes, de répondre aussi à cette prise de pouvoir par les sages-femmes, puisque c'est elles qui organisent la maison de naissance, c'est elles qui sont responsables de la maison de naissance. Elles le font en partenariat avec une maternité, mais elles sont entièrement responsables de l'accompagnement qu'elles proposent dans ces maisons. Et c'est un endroit qui laisse aussi aux femmes la possibilité de choisir le type d'accompagnement qu'elles souhaitent, le type d'accouchement qu'elles souhaitent.
Elles sont nombreuses à nous écouter d'ailleurs et à nous envoyer des messages. Estelle, en tant que sage-femme, sachez que ces violences me révoltent également. Au quotidien, je m'efforce de tout expliquer à mes patientes, tout ce que je fais afin que certains actes soient mieux acceptés en cas de nécessité. Pour exemple, ces deux derniers mois, pas une seule épisiotomie à mon actif, car pour moi, une épisiotomie non justifiée, systématique pour le confort du praticien, est une mutilation. Voilà ce témoignage, Paul Cesbron, un commentaire.
Oui, il est dur, effectivement, d'entendre de telles critiques, et pourtant, elle est éminemment justifiée. Il n'y a aucun doute, nous avons des travaux depuis, à partir des années 80-90, un certain nombre d'équipes dans le monde, en particulier en Grande-Bretagne, vont se pencher sur ce problème, parce que à cette époque, nous évoluons vers la systématisation. Fallait-il systématiser cette pratique? Voilà. C'était déjà le cas, d'ailleurs, pratiquement en Grande-Bretagne, aux États-Unis, au Canada. la France, jusqu'à maintenant, avait une attitude plutôt réservée. Mais, bien sûr, on a fini par se poser cette question. Voilà, les travaux montrent très clairement qu'il n'y a aucun bénéfice à systématiser. Bon, premier point. Maintenant, y a-t-il des circonstances qui justifient médicalement cette pratique? Eh bien, très, très peu. Nous avons aujourd'hui des maternités hospitalières, y compris universitaires, Besançon, qui ont un taux qui est autour de 1% des épisiotomies, alors que la moyenne générale pour la France est de 27%. À partir du moment où c'est la revue Prescrire, j'appartenais au comité de lecture, qui m'a demandé de faire ce travail-là, fin des années 80, sur la base de demandes de femmes. Voilà. Il faut savoir d'ailleurs qu'aux États-Unis, au Canada, ce sont des associations de femmes qui ont dit « on veut bien que vous nous coupiez la vulve, mais c'est un acte important ». Est-il justifié médicalement? Nous sommes, notre activité, notre culture est très empirique, en dehors de la connaissance de l'anatomie qui devient de plus en plus précise, la physiologie, on ne commence à la comprendre qu'au XIXe siècle, Lavoisier, Claude Bernard, etc. Mais notre pratique est empirique. Voilà. Donc, on commence à avoir une pratique contrôlée, scientifiquement, à partir de la deuxième moitié du XXe siècle, et de façon assez précise, pour l'épisiotomie, ce fut le cas. Et les conclusions est que finalement, on ne connaît pas vraiment d'indication absolue de l'épisiotomie.
France Hartner, un mot encore là-dessus?
Oui, tout à fait. Alors, en France aussi, finalement, ce sont des associations de patients comme la FAR, l'Alliance française pour l'accouchement respecté, qui ont tiré la sonnette d'alarme il y a longtemps sur ce sujet. J'irai plus loin que ce que dit cette sage-femme. J'irai qu'un acte de soins justifié peut quand même devenir un acte mutilant et irrespectueux. C'est quand même une réalité pour la femme qu'on lui coupe le sexe. C'est dans son vécu corporel à elle. Et ça interroge cette pratique en se disant, mais n'y a-t-il pas un moyen de faire autrement? Est-ce qu'on ne peut pas, dans les quelques indications médicales qui pourraient justifier une épisiotomie, est-ce qu'il ne faut pas penser les choses, savoir comment on pourrait faire autrement? Et ce que le CIAN souhaite travailler là-dessus, travaille déjà là-dessus et souhaite que les professionnels s'engouffrent encore plus dans ce chemin, sur le recueil systématique du consentement pour l'épisiotomie, une transparence sur les chiffres de la part des maternités, parce que c'est en regardant ces pratiques qu'on peut les changer, et une redéfinition du taux maximal par le Collège des obstétriciens.
Les photons viennent frapper la plaque sensible du monde ancré des selles d'argent. Des peaux rouges criards les avaient pris pour cible. C'est bon de citer le poète de temps en temps. Conducteur fou a maintenant éteint les phares et fonce tout droit vers le grand mur. À l'arrière est-il encore utile de dire, la route paraît de moins en moins sûre. Elle est belle, la Fiat luxe, dans peu de temps réduite à rien. Imaginez le choc avec un plus. Extinction totale des feux et c'est la fin.
Merlicht, c'était Lem sur France Inter.
La tête au carré. Sur France Inter.
Cette tête au carré consacrée à la médicalisation de la naissance avec mes invités Paul Cesbron, France Hartner. Énormément de messages pour vous, je vais vous les transmettre dans un instant. On s'arrête encore un instant à l'année 77 pour poursuivre ensemble l'histoire de la médicalisation justement de la naissance avec cette archive consacrée à la péridurale.
C'est une anesthésie locale, on fait une piqûre autour des méninges, c'est-à-dire c'est comme une ponction lombaire, et ça permet d'anesthésier la partie inférieure du corps.
Donc la femme ne sent rien.
La femme ne sent rien, en tous les cas, quand la péridurale est bien installée, mais elle peut, quand elle participe, elle est tout à fait consciente et voit très bien ce qui se passe, et donc peut participer pleinement à son accouchement ou même à sa césarienne.
Vraiment, vous n'avez rien senti?
C'était fantastique, j'ai rien senti.
Rien du tout?
Rien du tout. Aucune douleur, rien du tout.
Donc c'est agréable?
C'est pas agréable ni désagréable, on sent rien.
Ni agréable ni désagréable?
On sent rien.
Pourquoi vous aviez choisi la péridurale? Par peur de souffrir?
Évidemment, oui. Parce que j'avais la trouille, j'avais pas envie d'avoir mal.
Oui.
On m'a dit, c'est péridural, tu souffriras pas.
Oui. Et on n'avait pas souffert?
J'ai pas souffert.
Oui. Finalement, si vous aviez un deuxième enfant, vous recommenceriez?
Non.
C'est étrange, pourquoi?
Parce que je veux guérir cette peur que j'ai eue et accoucher toute seule, comme une grande.
Voilà, ça c'est 1977, Paul Cesbron. La pratique est toute nouvelle avec la péridurale.
Oui, vraiment toute nouvelle et elle n'est pas répandue encore à cette époque. Mmh. Hein. Non, il faut attendre les années 80-90 et surtout finalement le remboursement par la Sécurité sociale de toute demande de péridurale. Donc ça c'est Madame Veil, lorsqu'elle est à la santé, et ce vote va décider bien des femmes. Voilà.
Flore nous dit, j'ai accouché sans péridurale par choix pour mon deuxième enfant, car je l'ai demandé par confort pour mon premier. Je me rends compte de l'influence bénéfique des conseils de ma sage-femme, qui m'a permis de réaliser à quel point accoucher est d'abord un acte naturel, France Hartner.
Oui, alors moi plus que d'un acte naturel, je parle d'un acte culturel. Effectivement, prendre la péridurale ou ne pas la prendre, pour les femmes, c'est un choix qui se fait plutôt un processus de réflexion, savoir ce que l'on souhaite ou pas pour son accouchement. Et les femmes se renseignent de plus en plus sur le sujet. On voit des lieux, des maternités qui essayent aussi de réfléchir à proposer des alternatives à la péridurale pour la gestion de la douleur.
Ouais, y a Maud qui nous dit, elle est sage-femme, hein, concernant ces violences obstétricales. Il faut rappeler que même entouré de bienveillance et de douceur, même en médicalisant le moins possible, un accouchement, même s'il est eutocique, est un événement violent pour la femme. Et je constate justement que les femmes qui désirent accoucher sans péridurale sont encore minoritaires.
Oui, oui, peut-être. C'est pour ça que je dis que c'est plus culturel, hein, pour moi que naturel. Sur la violence de l'accouchement, oui, un accouchement, J'ai trois enfants, je trouve que c'est violent à vivre. Ça ne veut pas dire que c'est forcément traumatique. Ce qui nous intéresse, c'est de justement écouter les femmes, les entendre, rapporter leur vécu et de voir qu'un accouchement bien accompagné peut ne pas être traumatique, qu'un accouchement mal accompagné ou pas accompagné, dans le sens où les gens ne parlent pas à la femme, ne l'écoutent pas, ne l'entendent pas, ça peut être traumatisant, vraiment.
Paul Cézebron, cette question de la douleur, elle est tout à fait centrale aussi hein, dans cette discussion, évidemment.
Évidemment, oui. La douleur de l'accouchement, c'est une donnée culturelle dans toutes les sociétés humaines qui s'est imposée. Et donc, on comprend bien que notre société, qui a à sa disposition des moyens techniques nouveaux, mais d'une grande efficacité, est tenté de répondre à cette question par une technique finalement simple qu'une anesthésie locale, même si quand même on est à l'intérieur du tube neurologique qui contient la moelle épinière et des racines nerveuses, donc qui n'est pas tout à fait sans danger, faut rappeler ça, mais quand même c'est une technique assez simple que pratique aujourd'hui la plupart des anesthésistes, et donc on comprend bien qu'on se soit un peu précipité sur cette technique. Alors maintenant, c'est vrai qu'il y a un retour à une position critique, de dire d'abord, est-ce qu'on a réellement le choix ? Madeleine Akrisch, justement, du CIAN, a fait un travail, concluant qu'en France, ce n'est pas vraiment un choix. C'est finalement une technique qui semble s'imposer à toutes les femmes et qui n'est pas facile de dire « je ne veux pas une péridurale ».
Paul nous dit « ma fille est sage-femme dans une maison de naissance. Je suis étonné qu'il n'y ait aucune information sur ses équipements. À Paris, le calme, comme à la maison, association de sage-femmes indépendantes agit tous les jours pour un accompagnement respectueux de la physiologie. Pourquoi ce silence, France Arts ?»
Oui, parce que le sujet de l'émission n'était pas sur les maisons de naissance, mais j'ai été présidente, enfin coprésidente de l'association du Calme, donc on peut en parler. Effectivement, il y a des endroits au Calme et aussi ailleurs où les équipes se posent la question de l'accompagnement, où elles agissent d'ailleurs avec des usagers.
Caroline dit, elle est anesthésiste. La péridurale et les anesthésistes ont bien évolué. On peut mieux doser et gérer les sensations liées à l'accouchement. N'oublions pas quand même la sécurité des mamans. Paul Cézebron.
Bien sûr, c'est une technique qui s'est améliorée, qui s'est grandement améliorée, qui peut être auto-contrôlée d'ailleurs par les femmes elles-mêmes. Donc, il ne faut pas oublier qu'à partir du moment où on fait une péridurale, on n'est plus dans un accouchement physiologique. Voilà, on modifie les conditions de l'accouchement, ce qui vont nécessiter d'autres techniques, en particulier l'utilisation de ce qu'on appelle les ocytociques. Ouais. Ça n'est pas rien, parce qu'on le sait, le CIAN a joué un rôle très important dans la révélation de cette donnée. Nous avons fait un travail, enfin l'INSERM a fait un travail, déjà 5 ans, montrant très clairement que l'abus, c'est-à-dire une utilisation excessive de syntocinons, d'ocytociques, est un facteur d'hémorragie grave de la délivrance. Or, à partir du moment où nous utilisons la péridurale, cette technique, nous sommes pratiquement dans l'obligation d'utiliser ce produit, qui est le syntocinon. Autrement dit, on voit bien, et ce rappel à l'ordre est tout à fait justifié, on n'est plus dans l'accouchement physiologique. Voilà, je dis accouchement physiologique dans la mesure où, bien sûr, nous sommes ici sur Terre que parce que cet événement était physiologique, même s'il comporte des dangers, des accidents possibles.
Céline nous dit, que pensez-vous des déclenchements d'accouchement imposés aujourd'hui par les maternités ? Qui veut s'exprimer, France Hartner ?
Oui, alors sur le déclenchement, on n'aura peut-être pas le temps de beaucoup développer, mais on a fait un dossier sur le sujet. J'invite les gens à aller consulter un peu le site du CIAN pour voir tous les retours qu'on peut avoir là-dessus. L'information que je pourrais donner rapidement ici, c'est que on voit que les femmes qui n'ont pas été informées, dont le recueillement n'a pas été, n'a pas été recueilli pour le déclenchement, vivent 2 fois plus mal. Voire très mal leur accouchement que celle que l'on a pu informer, dont on a pu recueillir le consentement, où il y a eu un dialogue avec l'équipe. Il me semble que c'est important à signaler.
Merci beaucoup à tous les deux, en tout cas, d'être venus. Merci beaucoup aux auditeurs pour les très nombreuses questions. France Hartner, donc le CIAN, le site est sur La Tête au Carré. Et Paul Cézebron se livre La naissance en Occident chez Albin Michel. Merci à tous les deux.
Merci.
Ainsi s'achève l'émission. Merci à Thierry Dupin qui en signait la programmation musicale. Dans un instant, ce sera l'heure des infos. Et juste après, bien sûr, Fabrice Rouel avec Affaires Sensibles. Bonne journée.